Titus, qui aimait passionnément Bérénice et qui, même à ce qu'on croyait, lui avait promis de l'épouser, la renvoya de Rome malgré lui et malgré elle dès les premiers jours de son empire. Cette action est très fameuse dans l'histoire et je l'ai trouvée très propre pour le théâtre par la violence des passions qu'elle y pouvait exciter. Et oui, de Bérénice, nous allons parler tout au long de cette émission de l'Heure Bleue avec Laurence Février et Isabelle Lafont. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Et pour faire honneur à Racine, avec Coltrane et Duke Ellington, In a Sentimental Mood. Thank you. Nous allons commencer par vous, Isabelle Lafont et Laurence Février. Merci d'être là ce soir. Comment a commencé la passion du théâtre pour chacune d'entre vous et pourquoi Bérénice à ce moment-là pour vous, Isabelle Lafont?
Ça a peut-être commencé par les chevaux. J'habitais en Roumanie, je montais beaucoup et j'aimais beaucoup le rapport qu'on pouvait avoir avec un cheval et comment on pouvait, sans justement trop le guider, le laisser aller, comment on pouvait être proche d'un cheval et avancer avec lui. Et je crois qu'un jour, j'étais très gourdasse, et quelqu'un m'a fait jouer et j'ai eu l'impression que c'était la même évidence qu'un cheval. Et après du temps à passer, j'ai pas eu au début l'envie forcément de dire des textes, mais il y avait l'impression que sur un plateau, il y avait quelque chose où je m'en foutais de comment j'étais.
Donc vous étiez vous-même.
En tout cas, c'était pas important de faire bien ou de faire mal, ou de rater. Il fallait juste être en travail, comme à cheval. Voilà.
Et Bérénice?
Bérénice, ça fait longtemps que j'aime ce texte, mais sans oser trop y toucher, parce que c'est quand même quelque chose d'impressionnant, et que j'ai pas mis beaucoup en scène de pièces normales.
Et ça veut dire quoi, des pièces anormales?
Ben, j'ai plus travaillé à partir de romans, d'entretiens, de journal comme Virginia Woolf, et Bérénice, je l'ai travaillé beaucoup en stage avec des amateurs ou des comédiens, et Jean Bellorini un jour m'a dit que peut-être qu'il fallait se décider.
Et de cette décision, vous avez pris acte et vous êtes lancé dans l'aventure Bérénice,
oui,
en ne donnant pas une Bérénice comme on peut en donner encore aujourd'hui dans des théâtres classiques, par exemple à la Comédie Française. C'est vraiment votre Bérénice, on y reviendra tout à l'heure. Et votre interrogation sur ce que ça veut dire, écouter Bérénice aujourd'hui, quand on a 15 ans, quand on a 17 ans, quand on a 30 ans, quand on a 80 ans, etc. Vous interrogez le statut même de ce texte aujourd'hui. Laurence Février, pourquoi le théâtre? On vous connaît depuis longtemps, et pour le travail aussi atypique que vous faites, comme Isabelle Lafont, c'est-à-dire que vous avez à la fois la double appartenance à une pratique du théâtre, pas forcément dans le théâtre des grands théâtres, mais vous avez aussi une pratique de théâtre amateur, vous jouez dans des lieux atypiques, vous faites beaucoup d'ateliers de théâtre et vous interrogez les statuts du texte du théâtre, de ce que ça veut dire faire du théâtre, pour qui, pourquoi, du théâtre citoyen, du théâtre qui nous déploie des possibilités d'existence, pourquoi et comment le théâtre aujourd'hui et pourquoi Bérénice?
Oui, c'est vrai que je fais beaucoup de théâtre, du théâtre politique en quelque sorte. Ça m'intéresse de regarder la cité et puis de rapporter ce que je vois dans la cité et de le mettre sur le théâtre puisque c'est mon mode d'expression. C'est ma façon de communiquer avec le public. Donc j'ai fait effectivement un travail sur le viol, un travail sur la parité. Bon. Et puis je me suis dit, bon là, moi aussi, on m'a fait une proposition. C'est un directeur de théâtre aussi qui m'a fait une proposition de me dire, c'est le directeur du théâtre de l'Épée de Bois. Donc Antonio Diaz-Florian qui m'a dit on devrait travailler ensemble, retravailler ensemble. Et puis je lui ai dit j'ai un rêve, c'est de monter Bérénice dans la salle en bois. Parce que la salle en bois du Théâtre de l'Épée de Bois est absolument extraordinaire.
J'ajoute que c'est à Vincennes.
Oui, et c'est quand j'ai vu cette salle, je me suis dit si un jour j'ose, comme vous Isabelle, si j'ose un jour monter Bérénice, il faudrait que ce soit là. Donc là je me suis dit il faut que je dise mon rêve. Et puis il a dit banco, on y va. Alors voilà, comment c'est venu.
Comment comprenez-vous cette pièce, Laurence Février?
Alors bon,
tout à l'heure j'ai lu la courte introduction de Jean Racine à son Bérénice, et on sait que cette pièce, du vivant de Racine, n'a pas été bien accueillie. Et enfin, en tout cas, lui, il a trouvé qu'elle n'était pas bien accueillie et qu'il y avait beaucoup de mauvaise compréhension de la nature de ce texte.
Voilà, les dames étaient très contentes, au contraire.
Mais les messieurs, pas du tout.
Les messieurs, pas du tout. Mais les dames étaient très contentes parce que, enfin, on ne parlait plus comme de passion mâle et vigoureuse, mais on parlait d'amour et donc ça plaisait beaucoup aux dames. Donc mais c'est vrai que, bon, moi je partage pas du tout cette idée. Je pense que justement, dans ce texte, c'est pas une question d'homme ou de femme. C'est une question de passion. C'est tout le texte, tout le théâtre de Racine n'est qu'une seule voix, la sienne, et c'est la voix de la passion. Il a été tellement façonné par les jansénistes. Il sait tellement ce que c'est que la passion du Christ, bien sûr, qui est la passion, c'est la souffrance, c'est le supplice de l'amour, et ça passe par le regard. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans tous ces textes, c'est la façon dont ils racontent l'autre qu'on regarde et pour qui on tombe en pamoison. Tout son théâtre est là. Et donc, je me suis dit, bon, ben, je vais monter Bérénice, mais pas justement de façon traditionnelle. Parce que, bon, ben, ça a été très, très bien fait par des tas de gens. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que cette violence de la passion, elle était unisexe. Il n'y avait pas une histoire d'homme ou de femme. Donc, je l'ai fait jouer que par des femmes. Justement, pour enlever le côté du regard qu'on a de regarder des hommes et des femmes se désirer, etc., mais qu'on n'entende que le texte de la passion, quel qu'il soit, par quelque bouche que ce soit, et comment il est prononcé, et comment, finalement, le sexe n'a aucune importance. D'ailleurs, chez Racine, il n'y a pas de sexe. Il y a du regard, il y a le regard, il y a la fascination.
Mais le sexe peut passer par le regard. Ça s'appelle le voyeurisme, d'ailleurs.
Oui, mais ça se passe pas sur scène, en tout cas. Ça se passe pas sur scène, ça se passe dans l'imaginaire du personnage, ou l'imaginaire du spectateur. Mais ça se passe pas sur scène. C'est un texte pour moi de fantasme.
Alors, quand on voit votre mise en scène, Laurence Février, on s'aperçoit que dans ce texte sublime de Racine, eh bien, il y a une sorte de cérémonie érotique, une célébration de l'orgie amoureuse uniquement par les mots.
Oui. C'est ce que dit si bien Barthes, d'ailleurs, je me suis inspirée. J'ai lu ce qu'il a. J'avais lu, il y a longtemps, le texte qu'il a écrit sur Racine, et je trouve absolument fascinant la manière dont il en parle. Comment il dit que sur le plateau, le héros va sur le plateau et il n'existe que parce qu'il parle. Et s'il sort du plateau, l'endroit de la tragédie, dès qu'il est sorti de l'endroit de la tragédie, il n'existe plus et il meurt. Et donc l'endroit de la tragédie est entouré par la mer, le seul endroit où on peut fuir. Par les mots, on entend la passion à longueur de pièce chez Racine, oui.
Alors Roland Barthes a publié un texte extrêmement éclairant et très agréable à lire, sur Racine, d'ailleurs c'est son titre, hein, sur Racine. Je vous propose d'écouter sa voix, il va parler du mythe de Jean Racine dans la culture française. C'est une archive INA de 1974.
Racine est un auteur qui est pris dans un tel mythe, il y a un tel mythe racinien dans la culture française. Racine a tellement alimenté, je dirais, tout l'apprentissage de tous les jeunes Français à l'école ou au lycée. Il a fait l'objet de tellement de dissertations, de tellement de commentaires professoraux. Il est passé à la fois pour, disons, l'exemple le plus pur de ce qu'on appelle mythologiquement la clarté française et aussi la psychologie des passions. Bref, il est pris dans une sorte de, comment dirais-je, de loi culturelle extrêmement forte. Par conséquent, secouer cette loi et la secouer sans trop de gratuité, d'une façon qui ne soit pas purement subversive facilement, je pense que c'est en effet une entreprise difficile, c'est certain. Il est très difficile de monter un spectacle sans avoir présent dans le travail contre quoi on lutte. Et là, on lutte contre une tradition, contre un passé, contre un poids de la loi culturelle qui est extrêmement fort.
Alors, ce qu'il y a d'incroyable dans vos deux représentations de Bérénice en ce moment même en France, et vous, Laurence Février, et vous, Isabelle Lafont, c'est que c'est ce désir qui continue à l'intérieur de nous. Nous avons tous appris, et ça continue, heureusement, dans les écoles. On continue à apprendre Bérénice, à essayer de la voir dans la bouche, dans le cœur, de l'apprendre par cœur, d'ailleurs. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est de le rendre immédiatement sensible. Et quand je suis allée voir au théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, Isabelle Lafont, votre mise en scène de Bérénice, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que j'étais prise au milieu de lycéens qui avaient entre 15 et 17, 18 ans et qui étaient, mais soulevés par le texte de Racine. Alors, pour vous, quel est le statut de cette pièce Bérénice dans l'œuvre de Racine et comment avez-vous voulu déployer ses multiples sens?
je suis, pour dire la vérité, moi je suis un peu étrangère à Racine.
Mais vous le dites sur le plateau pendant la représentation du théâtre, vous dites je connais pas bien Racine.
Oui, il y a quelque chose qui...
Vous le dites aux spectateurs qui sont là, vous avez un pacte de loyauté avec eux.
Je suis pas du tout une spécialiste, j'y comprends rien.
Il y a quelque chose de... Et c'est de cette étrangeté, et puis de cette reine qui est étrangère, qui vient de Palestine, qui est juive, là où ça m'intéresse de faire arriver Racine. Après, faut faire attention parce que je réponds toujours à côté. Mais ce qui me trouble en tout cas par rapport aux classes, c'est effectivement leur adhésion à la langue, leur adhésion, je dirais moi, à la brutalité de la langue. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement brutal. C'est-à-dire que c'est pas tant une histoire, le pouvoir, Titus, il choisirait le pouvoir ou l'amour, c'est quelle est la brutalité de dire, de pas dire, de faire dire. Et du coup, c'est où est cette brutalité-là? Et qu'est-ce que ça touche, si on ne travaille pas sur ce que ça touche intimement, comme vous dites, on l'a appris, ou peut-être on a été intimidé, ou peut-être on a trouvé que c'était pompeux. Enfin, on a un rapport intime à l'alexandrin. C'est pas, on l'a tous. Quel est ce rapport intime de chaque comédien, de nous? Et à partir de là, je pense qu'on peut aborder. Et du coup, je pense que ça peut effectivement traverser aussi des générations, les classes de Saint-Denis, qui étrangement n'ont pas de problème avec le sens, le fait que ce soit des alexandrins, qui, non, ça ne pose pas de problème. Et c'est plutôt génial de se dire ça maintenant. Ça contredit tout ce qu'on dit, oui, les jeunes, Facebook, le SMS. Non, pas du tout. En fait, la langue, elle traverse, comme dirait Célan, elle traverse. Je veux dire, quoi qu'il arrive. Après, c'est vrai qu'il s'agit d'amour. Il s'agit d'amour, mais d'un amour qui s'expose, qui se dit pas. Et c'est vrai que j'avais pas envie de cacher l'étrangeté que j'avais avec ce drôle de texte.
Alors, Roland Barthes a été extrêmement coupant avec cette pièce de Racine qui s'appelle Bérénice. Je vais le citer puisque j'ai son texte sous les yeux. Il dit « C'est Bérénice qui désire Titus. Titus n'est lié à Bérénice que par l'habitude. Bérénice est au contraire liée à Titus par une image, ce qui veut dire chez Racine par Eros. Cette image est naturellement nocturne. Bérénice y revient à loisir chaque fois qu'elle pense son amour. » Titus a pour elle la volupté d'un éclat entouré d'ombre, d'une splendeur tempérée, replacée par un protocole proprement racinien au cœur de cette nuit enflammée, où il a reçu les hommages du peuple et du Sénat devant le bûcher de son père. Donc, est-ce que vous êtes d'accord toutes les deux sur cette interprétation de Jean Racine? Quand j'ai vu votre présentation, là je m'adresse à Laurence Février, je n'ai pas eu du tout l'impression que c'était Bérénice qui aimait Titus et que Titus n'aimait pas Bérénice. C'est beaucoup plus compliqué que cela.
Ouais.
Et comme on peut dire un peu vulgairement aujourd'hui, quand on revoit vos deux révisitations de Jean Racine, eh bien, il y a quand même l'histoire d'un triangle amoureux aussi. Absolument. Et d'ailleurs, dans votre mise en scène, bon, pour celles et ceux qui n'auraient pas appris Racine et notamment Bérénice à l'école, eh bien, il y a le fameux Antiochus. Antiochus qui est amoureux de Bérénice, qui n'a jamais osé le lui dire. Antiochus qui pense que peut-être un jour, il va pouvoir assouvir son amour et partir avec Bérénice. Bérénice aime Titus. Titus, je crois, aime Bérénice. Mais vous mettez en lumière le rôle d'Antiochus, Laurence Février.
Pour moi, c'est le plus beau rôle amoureux. Un des plus beaux rôles amoureux qu'a écrit Racine. Pour moi, c'est le plus beau rôle de la pièce. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un trio. Antiochus aime Titus d'amitié, mais d'une amitié tellement
amoureuse.
Forte. Amoureuse. Ils ont combattu ensemble. Ils aiment la même femme. Bérénice aime Titus, Titus l'aime. Mais bon, quand on dit que Titus n'aime pas Bérénice, personne ne réfléchit à ce que c'est quand même que l'héritage que lui donne son père. C'est ça le problème de Titus. Est-ce qu'il va repousser ce qui lui est donné par son père? Enfin, il a l'empire qui arrive sur ses épaules. Alors, on voudrait qu'il s'en aille dans une chaumière avec Bérénice. Mais enfin, attention, quand même, là, les gens n'ont pas réfléchi quand ils disent « Titus n'aimait pas Bérénice ». On s'en va pas alors qu'on va hériter de Rome et de l'Empire romain sur un claquement de doigts en disant « Ben non, je t'aime trop, je m'en vais avec toi dans une chaumière ». Non, ça. D'ailleurs, il le dit dans le texte. Vous rougiriez de ma lâche conduite. il le dit. Et il sacrifie ça. C'est l'héritage du père. Et en fait, ça, il faut se poser la question de l'héritage du père. C'est tellement fort qu'effectivement, ça met en balance l'amour qu'il avait.
Alors,
pour elle
quand il était jeune. Alors, c'est une revisitation de la tragédie antique. Et il faut préciser, parce que c'est pas évident dans le texte, il faut préciser que le père de Titus vient de mourir, donc Titus va pouvoir devenir empereur, mais en plus du triangle amoureux, il y a un petit peu d'inceste dans l'air. Ça ressemble à une très bonne série américaine qu'on verrait au cœur de la nuit quand on a une bonne insomnie, parce que Bérénice a appartenu au père de Titus.
Alors Bérénice était la Bérénice historique, était une femme politique, elle avait 20 ans de plus que lui. Quand il arrive, Titus, en Judée, pour remettre l'ordre romain, il tombe fou d'elle, tout de suite. Mais elle a déjà eu deux maris, elle va en avoir plusieurs, elle a une vie très, très, très... C'est pas du tout la Bérénice de Racine, hein, la Bérénice historique. C'est une femme politique à forte poigne, et qui a fait des tas de choses pour son peuple, et pour justement sauver son peuple juif, donc.
Qui a laissé faire quand même le massacre des Juifs.
Il a laissé faire, oui. Mais enfin, elle s'est battue, elle a été jusqu'à presque se vendre pour que ça n'ait pas lieu. Donc, elle s'est beaucoup... Mais la Bérénice de Racine n'est pas du tout politique, c'est juste une femme plus classique, disons, hein, on peut dire.
D'accord ou pas d'accord, Isabelle Lafont? Bérénice, pas politique?
Eh ben, oui, il a...
Il y a quand même la notion du peuple qui entrave le désir de Titus de pouvoir, soi-disant, lui dire son amour. Le peuple, je suis au peuple, dit Titus, donc je ne peux pas être à toi, puisque j'appartiens au peuple.
Et elle dit, en tout cas, c'est vrai qu'elle dit que les États, pour elle, tous vos moments, les États ne compteraient pas, ce qui n'est pas du tout le cas de la vraie Bérénice. Il l'a vraiment extraite, presque, de l'histoire. Il l'a extraite parce que, effectivement, elle a quand même laissé faire, dans l'histoire, un gros massacre de Juifs, où il n'y a que quelques vers dans Racine, que j'ai coupé parce qu'il fallait, dans ce cas-là, faire une pièce là-dessus. Mais il y a des petites traces, quand même, de cette impératrice, de cette femme de Palestine, mais non, Barthes, je comprends pas.
Non, ça c'est une... Non, ça, là, Dieu sait s'il a écrit des trucs bien, mais là on n'est pas d'accord, hein, non?
Je vais vous proposer une autre vision de Jean Racine. Cette fois, ça sera Antoine Vitesse, avec qui toutes les deux vous avez travaillé, je crois. Il va parler des valeurs exprimées par Jean Racine. Lui aussi, il s'était attaqué à Bérénice. Nous écoutons la voix d'Antoine Vitesse, c'est une archive INA du 23 juillet 1975.
C'est l'idée même, pas seulement en ce qui concerne Racine, mais en ce qui concerne tout le théâtre classique, mais Racine c'est vraiment l'exemple absolu, c'est l'idée même de la conservation des valeurs, l'idée même de l'immuabilité des valeurs qui s'est effondrée. Et quand je suis arrivé au conservatoire en 1969, quand j'ai commencé à enseigner au conservatoire, je me rappelle très bien que, à ce moment-là, on enseignait, d'ailleurs pas tellement Racine, mais enfin, on l'enseignait, et je me rappelle très bien les types d'enseignement qui étaient donnés. C'était un type d'enseignement qui, parfois d'ailleurs, provoquait de très bons résultats en ce qui concerne l'exécution, mais pas ça en cause, mais qui était toujours fondé sur le postulat que Racine exprimait les caractères et exprimait les passions dans leur absolu. Dire que on allait même, d'ailleurs, jusqu'à justifier par là, dans un souci non louable de modernisme, certaines audaces ou certaines choses qui pouvaient paraître des audaces, c'est-à-dire par exemple le fait de jouer Racine en costume contemporain. Le fait de jouer Racine en costume contemporain apparaissait comme une sorte de preuve, justement, ou pouvait apparaître à certains comme une sorte de preuve que Racine, précisément, pouvait être joué dans n'importe quel costume du monde et du temps du monde, puisque, de toute manière, les passions sont les passions et que Racine exprimait l'éternité des passions.
Et là-dessus, vous êtes d'accord toutes les deux sur la proposition de Vitesse qui dit que Racine, c'est ça qui le rend ultra contemporain aujourd'hui. Et c'est vrai que là, toutes les deux, on peut voir chacune vos mises en scène de Bérénice, mais Racine est très très à la mode et de plus en plus à la mode.
Oui, et puis c'est-à-dire que...
C'est la passion amoureuse qui explique ce revival Racine.
Oui, puis c'est-à-dire que c'est aussi l'idée que Racine, c'est pas seulement c'est la passion amoureuse, mais c'est aussi comment la dire. C'est-à-dire que dans Bérénice, très bêtement, les gens disaient il n'y a pas d'histoire. Ça, c'est pas rien que de passer 5 actes où c'est seulement à la fin qu'Antiochus arrive à dire publiquement j'ai toujours adoré Bérénice. C'est pas rien que le meilleur Titus demande à Antiochus d'aller dire à Bérénice qu'il la quitte. C'est-à-dire, c'est là où il est très moderne, c'est que la passion va avec le fait de la dire, de ne pas pouvoir la dire ou de la dire. Et puis, en plus, en alexandrin.
Oui, il invente une langue. Donc, cette langue, elle est proche, effectivement, de... Mais là, j'avais des jeunes gens hier qui disaient que c'était proche du slam. Donc, c'est-à-dire que je pense que c'est ça, c'est cette musique qui vient avec le texte, qui les enchante aussi.
Et Antiochus, qui est roi de Commagène, et qui est avec Arsace, son confident, son fidèle confident, ils sont à Rome. Plus précisément, dans le palais de l'empereur Titus, ils marchent. Ils traversent des salles immenses, des corridors, vestibules, couloirs, etc. Ils montent des escaliers et ils se rapprochent de plus en plus du cœur de l'histoire, du cœur du pouvoir, à savoir l'antichambre de l'empereur Titus. C'est là que ça va se passer. Ils arrivent devant la porte et la porte s'ouvre, ou Antiochus ouvre la porte, il rentre, Arsace le suit, mais alors tout de suite Arsace s'arrête. Il est très impressionné. Il n'a jamais vu ça, c'est magnifique. Alors Antiochus se retourne, il voit qu'Arsace s'est arrêté, et tout simplement il lui dit « Arrêtons un moment, la pompe de ces lieux, je le vois bien Arsace, est nouvelle à tes yeux. Souvent, ce cabinet superbe et solitaire des secrets de Titus et le dépositaire. »
Nous venons d'entendre un court extrait de votre mise en scène, Isabelle Lafont, au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, votre mise en scène de Bérénice. Et je crois que les auditeurs ont pu se rendre compte de l'intensité de cette scénarisation, au sens le plus élogieux du terme, c'est-à-dire que vous conduisez chacun des spectateurs vers une compréhension du texte. Ce n'est pas la peine d'avoir lu Racine, ce n'est pas la peine de l'avoir appris. N'importe qui, quel que soit son âge, va être contraint, de par votre dispositif théâtral, et invité à partager cette passion Racine. Parce que vous en déployez sur un plateau nu du théâtre, avec une troupe de comédiens qui a l'air manifestement très unie, et qui est habillée, comme vous et moi, en costume de ville. C'est aujourd'hui, ça se passe autour d'une table. C'est avec un texte qui date d'il y a plusieurs siècles qu'on va avoir à faire. Vous nous invitez à une sorte de, finalement, de drame sentimental. Que s'est-il passé pour en déployer les différentes arêtes, Isabelle Lafont?
Là, c'est le début, et on entend Pierre-Félix Gravière qui fait Antiochus, et j'avais l'impression que le geste de répétition, c'est-à-dire ce geste qui va de, où l'acteur va vers un texte et il y a un moment, le texte va vers lui, il fallait pas le cacher. Et effectivement, Antiochus, qui est un, comme vous dites, un personnage magnifique, j'ai l'impression que c'est lui qui raconte, qui porte l'histoire. Donc à partir du moment où un jour Pierre-Félix a proposé ça, il fallait le garder, et il fallait garder tout le temps des possibilités de récit. C'est-à-dire que si on s'expose à Racine, il faut aussi exposer ce qu'on en perçoit, c'est-à-dire que pouvoir répéter certains vers si on sent qu'on les a pas bien joués ou pas bien compris, pouvoir dire qu'on ne sait pas, pouvoir imaginer qu'elle s'avancerait, etc., etc. C'est là où, comme vous dites, on peut toucher les arêtes. En tout cas, c'est là où nous pouvions. D'autres propositions sont mille fois possibles, et jamais on a pensé, en tout cas j'ai pensé que c'était quelque, j'ai trouvé ça très classique de faire ça, moi. C'était pour en toucher justement le classicisme profond. C'est-à-dire que si vous touchez Bach, il faut, Gould, il a eu l'idée géniale pour toucher Bach de pas mettre de la pédale, par exemple, pour qu'on entende chaque note. Et on l'entend 10 fois plus. Voilà. Alors qu'on a toujours eu Bach avec un enrobage. Et c'est vraiment, sans faire non plus genre, je suis comédien et je joue Racine, non. C'est qu'est-ce qui te...
Et je joue bon Racine, non, c'est Racine que vous jouez, c'est pas voilà. Votre Racine.
Non, c'est Racine. Avec l'idée, bon, c'est un peu... L'idée, c'est vrai que me suis beaucoup aidée, puis on l'a beaucoup lu du texte de Charlotte Delbault, Spectre, mes compagnons.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Inter, vous écoutez le choix musical de Laurence Février, Laurie Anderson.
Did she fall? Or was she pushed? Your shirt on my chair. Your shirt on my chair. I'll be with you. I'll be there. I'll never leave you. Your shirt on my chair. Come here, little girl. Get into the car. It's a brand new Cadillac. Bright red. Come here, little girl. Hey. Haven't I seen you somewhere before? Your despair in my heart, bright red. Your words in my ears. I'll be with you. I'll be there. I'll never leave you. Wild beasts shall rest there, and owls shall answer one another there, and the hairy ones shall dance there, and sirens in the temples of pleasure.
Your shirt on my chair. I'll be
with you.
I'll
be
there.
I'll never
leave you. Your
shirt
on
my
chair.
Mais il ne s'agit plus de vivre. Il faut régner.
Eh bien, régnez, cruel. Contentez votre gloire, je ne dispute plus. J'attendais pour vous croire que cette même bouche, après 1000 serments, d'un amour qui devait unir tous nos moments, cette bouche à mes yeux, s'avouant infidèle, m'ordonnât elle-même une absence éternelle. Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu, je n'écoute plus rien, et pour jamais. Adieu. Pour jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mères me séparent de vous, que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur, et que de soins perdus. L'ingrat de mon départ, consolé par avance, daignera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts.
Je n'aurai pas, madame, à compter tant de jours. J'espère
que bientôt la triste renommée vous fera confesser que vous étiez aimé. Vous verrez que Titus n'a pu sans expirer.
Ah, Seigneur, s'il est vrai, pourquoi nous séparer? Je ne vous parle point d'un heureux Hyménée. Rome, à ne vous plus voir, m'a-t-elle condamnée? Pourquoi m'enviez-vous l'air que vous respirez?
Hélas, vous pouvez tout, madame. Demeurez. Je n'y résiste point. Mais je sens ma faiblesse. Il faudra vous combattre et vous craindre sans cesse. Et sans cesse, veillez à retenir mes pas que vers vous, à toute heure, entraînent vos appâts. Que dis-je? En ce moment, mon cœur hors de lui-même s'oublie et se souvient seulement qu'il vous aime.
Eh bien, Seigneur, eh bien, quand peut-il arriver? Voyez-vous les Romains prêts à se soulever?
Nous venons d'entendre un court extrait de votre mise en scène, Laurence Février, Bérénice Fragment. Toutes les deux, vous mettez en scène Bérénice, votre manière d'appréhender Bérénice de Jean Racine aujourd'hui, en 2019, mais toutes les deux, vous avez manifestement éprouvé le besoin d'être aussi sur le plateau du théâtre et d'interpréter cette langue de Racine. Pourquoi? Elle brûle de désir, Laurence Février?
Ça oui, elle brûle de désir, oui, ça vous avez raison. Et je vous remercie d'avoir passé Laurie Anderson, parce que pour moi c'est exactement le même travail qu'elle fait aujourd'hui que ce que... ce qu'a fait Racine, en quelque sorte, avec la langue, c'est-à-dire c'est de la langue et de la musique. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est important de le visiter de l'intérieur aussi sur le plateau comme acteur, parce que c'était lui-même un grand acteur. Il vivait avec les grandes actrices de son temps, et une des actrices avec qui il vivait, lui, il allait aux Tuileries dire ses textes, et les jardiniers le prenaient pour un fou, parce qu'il hurlait ses textes, il était tellement bon qu'elle lui disait « mais vous pourriez être sur scène ». Et il était très moderne, puisqu'il avait dit qu'il voulait, au besoin, ne rien mettre sur le plateau, sauf une chaise qu'il avait concédée à une de ses actrices. Donc c'est un théâtre d'acteurs, c'est un théâtre athlétique. C'est comme de l'opéra pour moi, c'est-à-dire que ça demande une force physique considérable, et ça demande de travailler le texte. C'est pour ça qu'il faut travailler le texte de telle manière qu'il arrive à être juste comme ce qu'on voit de l'iceberg. C'est parce qu'il faut travailler en dessous. Il y a un tel travail en dessous, on est comme des athlètes. Donc, on va sur le plateau, il faut dire le texte. Donc, je comprends que vous y mettiez aussi, Isabelle.
Isabelle?
Oui, mais parce que moi, quand je mets en scène, je joue toujours parce que je vois quand je suis dedans. Donc là c'était plus compliqué parce que il fallait que j'arrive plus tardivement et puis j'avais envie de ne pas cacher que j'étais un peu étrangère à cette langue et d'avoir un personnage plus en hommage à Charlotte Delbault qui soit plus comme un spectre et puis je pensais que Bérénice pourrait jamais tenir jusqu'au bout qu'il y a un moment donné où elle était KO et qu'il fallait bien quelqu'un pour la relever mais j'arrive pas moi à mettre en scène si je ne joue pas, je comprends rien. C'est en étant dedans, et donc en ne voyant pas tout, que j'arrive à mettre en scène, et puis surtout qu'on soit bien ensemble.
Quelques personnes m'ont reproché la simplicité que j'avais recherchée avec tant de soin, dit Jean Racine lors de sa préface à Bérénice. Ils ont cru qu'une tragédie qui était si peu chargée d'intrigue ne pouvait être selon les règles du théâtre. Je m'informais, ajoute Racine, s'ils se plaignaient qu'elle les eût ennuyés. On me dit qu'ils avouaient tous qu'elle n'ennuyait point, qu'elle les touchait même en plusieurs endroits et qu'ils la verraient encore avec plaisir. Mais que veulent-ils davantage? Je les conjure d'avoir assez bonne opinion d'eux-mêmes pour ne pas croire qu'une pièce qui les touche et qui leur donne du plaisir puisse être absolument contre les règles. La principale règle est de plaire et de toucher. C'est Jean Racine qui s'exprime à propos de l'accueil de Bérénice. Plaire et toucher, aujourd'hui en 2019, pourquoi et comment? Ça nous plaît et ça nous touche. Je crois que ça nous touche avant de nous plaire d'ailleurs, non, Isabelle Lafond?
Oui, j'ai l'impression que ça nous touche. Je ne suis pas spectatrice et je ne saurais pas vous répondre sincèrement parce que je serais à un mauvais endroit. Mais j'ai l'impression que quelque chose qui nous touche, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et il y a quelque chose dans cette tragédie qui nous dépasse et qui vaut la peine, et qui vaut la langue, et qui vaut l'amour, et qui vaut la passion, et qui vaut que... Je suis pas sûre que Titus ait fait le bon choix, franchement.
De choisir Bérénice?
Non, de choisir le pouvoir.
Il est obligé. C'est le fardeau du père. C'est le fardeau du père qui lui arrive. Il le dit d'ailleurs.
Alors, on va pas faire de lecture psychanalytique.
Pourtant, s'il faut, pour la... Non, mais en quelque sorte, je crois qu'on est amoureux de Racine. C'est-à-dire que même, il est, bon, là, il était effectivement intéressé par les règles, mais son génie dépasse toutes les règles. On s'en fiche des règles, et on s'en fiche aussi de l'académisme et des gens qu'il faut dire, les emeux et les pieds, les machins. On s'en fiche complètement.
Enfin, tout à l'heure, dans l'extrait qu'on a pu écouter de votre mise en scène, on voit bien, et d'ailleurs, Isabelle, c'est pareil, on voit bien que vous respectez l'alexandrin racinien, et que c'est donc une manière de respirer la langue française particulière.
Bien sûr, mais dessous, il faut, c'est comme une espèce de chaudière. Il faut que la chaudière soit pleine de feu pour que dessus arrive la chaleur, la bonne chaleur pour tout le monde. Mais dessous, ça broie. Vous parliez du cheval tout à l'heure. Pour moi, le texte de Racine, c'est comme un cheval au galop. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser ce cheval au galop et le maîtriser comme un bon cavalier, justement, parce qu'il va tellement au galop, il est tellement, c'est un cheval fou. Mais maîtrisé par l'alexandrin. Donc c'est la passion maîtrisée. Et je pense qu'on a une passion pour son texte qu'on peut pas expliquer. Ça s'explique pas la passion, ça dépasse la raison. Donc il arrête pas. Ce texte est fascinant pour nous tous, français, peut-être aussi à l'extérieur. J'aime beaucoup ce que disent les étrangers. Ils sont fascinés aussi qu'il ait pu écrire de tels textes en si peu de mots. Et dans une telle rigueur et dans une telle métrique. Et je pense que c'est ça qu'on a, et que les jeunes gens qui viennent, etc., reconnaissent quelque chose qui nous est profondément imprégné et qui déclenche chez eux aussi la séduction, la passion aussi, en quelque sorte.
Et l'alexandrin, loin d'être une contrainte, c'est une liberté, c'est ça aussi. C'est-à-dire que la langue qui a 12 pieds, qui est soi-disant, je sais plus, je lisais quelqu'un qui disait c'est comme un corset, pas du tout. La rigueur de cette langue est une liberté, je pense, de jeu, d'interprétation, d'écoute.
Nous allons écouter la voix de Marguerite Duras. Nous allons commencer par écouter un court extrait de son magnifique documentaire intitulé « Césarée ». Et puis nous l'entendrons parler du théâtre tragique et de son admiration pour Racine.
Césarée. Césaréa. Capturé, enlevé, emmené en exil sur le vaisseau romain, la reine des Juifs, la femme reine de la Samarie, par lui, le criminel, celui qui avait détruit le temple de Jérusalem. Et puis, répudié. L'endroit s'appelle encore Césarée, Césaréa.
On joue plein vivable au théâtre. La tragédie, je dis. La tragédie, c'est l'invivable. Si je vais jusqu'au bout de ma pensée, je crois qu'il n'y a de théâtre tragique. Enfin, je l'entends de façon très large. Je crois que Molière, c'est tragique, complètement, voyez. Et que tout ce qu'on essaye de faire maintenant au théâtre sera rejeté. Tous les siècles, il y a des tentatives de meubler le théâtre, d'accessoires comme ça, de pièces. C'est pas non classique, mais de pièces non adéquates. On raconte autre chose que la passion. Et ça ne marche jamais. Je crois que ce qu'on peut jouer encore de plus jeune, au théâtre, de plus frais, d'inaltérablement frais, c'est Racine. J'en suis complètement persuadée.
Passion Racine, Marguerite Duras a raison, encore une fois. Comment cette passion Racine s'explique-t-elle? Peut-être par l'émotion procurée par le désir, la pureté de la langue, vous l'avez dit tout au long de cette émission, la mécanique du désir. Je reviens à ce que j'ai vécu avec ces lycéens l'autre fois au théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis. Il y avait à côté de moi un jeune couple d'amoureux. Ils devaient avoir 17-18 ans. Ils étaient beaux comme des dieux. Ils ont sorti leur portable et puis ils se sont dit, juste après avoir vu votre présentation et après avoir écouté la langue de Racine, eh ben, je crois qu'on va essayer de se parler. On va plus envoyer de SMS. On va essayer de se parler. Donc, quel plus bel hommage. Et en même temps, comment continuer cette passion Racine? C'est la question que je vous pose à toutes les deux. En posant d'abord une question que vous nous posez, Isabelle Lafont, sur le plateau du théâtre, vous nous dites qu'il y a des choses dans Bérénice que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas?
Il y a des, notamment la rapidité qu'il a sur ce fameux massacre quand même de juifs qui fait très très peu de vers et qui est très vite passé. Il y a ce rapport entre l'empereur, ce rapport avec Vespasien, certains vers qui me sont pas encore, il y a des alexandrins que je comprends au fur et à mesure des représentations, il y a des...
Donc c'est un chemin qu'on prend.
C'est un chemin et c'est la tension qu'on a vers ce chemin. C'est ça qui fait un chef-d'œuvre, c'est-à-dire que je ne comprends pas toutes les notes. Tout d'un coup, un vers me semble lumineux, génial, quoi me quitter si tôt et ne me dire rien. Que veut dire ce silence? C'est génial. Que veut dire ce silence? Qu'est-ce que dit le silence? Ben, vous voyez, tout d'un coup, il y a ça, et je me dis effectivement, que dit la parole, mais que dit le silence? Que dit ce qu'on ne prononce pas? Et puis, il y a des moments de gouffre, mais pourquoi se les cacher? Et l'autre jour, on a entendu un avion qui passait au-dessus de Saint-Denis, et une seconde, on aurait pu croire que c'était la guerre, hein, parce que c'était un gros avion, et je me suis dit, tiens, si par exemple on était en guerre, est-ce que ça vaudrait de jouer Bérénice? Ben oui, bien sûr, mille fois.
Laurence Février?
Oui, bien sûr, mille fois, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, la passion qu'on a pour ce texte nous dépasse, vraiment, et elle n'est pas raisonnable, encore une fois. Donc c'est tout le théâtre de Racine qui est là-dedans. Mais il a su le dire. Toutes ces pièces, d'ailleurs, sont fondées sur la passion. Il y en a pas une qui ne parle pas de ça. Et la passion, toujours, qui passe par le regard, qui passe par la domination. Parce qu'il y a quand même un problème de domination entre celui qui aime et celui ou celle qui est aimée. Celle ou celui qui aime, et c'est bon. Et il y a quelque chose qui fait que si je t'aime, tu es mon objet. Tu es mon objet, et si tu ne m'aimes pas, je vais te tuer. C'est tout le théâtre de Racine. C'est-à-dire que, là, c'est pas exactement dans Bérénice, puisqu'il va pas la tuer, il la quitte, mais c'est une mort métaphorique. En fait, il la tue en la quittant. C'est-à-dire qu'il se tue. C'est la seule pièce où il n'y a pas de mort, effectivement, mais c'est une mort métaphorique, comme le poids de l'héritage du père est tel qu'il va jusqu'à la tuer. Même si, bon, c'est certainement pas une analyse sur l'amour, mais en quelque sorte, il le fait. Il lui dit, je vous quitte parce que je vais régner, et c'est bien l'héritage du père qui fait qu'il la quitte. C'est pas parce qu'il l'aime pas. C'est parce qu'il prend en charge quelque chose qu'il écrase lui-même, d'ailleurs. Dans l'histoire, il ne va plus connaître aucune femme. Il va mourir 2 ans après. Et sans se remarier, parce qu'il a été Titus, il a été extrêmement, à la cour de Néron, c'est pas de la blague. Il a été quelqu'un qui avait une activité érotique dans tous les sens, homme et femme. Donc quand il la rencontre, c'est effectivement une passion dévorante. En plus, je pense parce que c'était une politique. Donc là, ils se sont rencontrés tous les deux. Mais le poids du père et de l'empire qui va lui tomber sur les épaules va faire qu'il la tue métaphoriquement. Donc, effectivement, il y a aussi un meurtre dans ce... Enfin, deux, puisque Antiochus va partir aussi.
Il aime le pouvoir, quand même. Il aime la gloire. Et ça, pourquoi le... Je veux dire, c'est beau aussi. Il aime la gloire. Et en plus, ce mot à prononcer est assez délicieux. C'est la gloire, madame. C'est quand même pas mal, hein, de régner.
Bien sûr, et en plus, c'est quand même son destin. Il faut pas oublier qu'il est janséniste. Donc, quand on a un destin, il a un destin. Titus, il est fils d'un, il va être empereur. Donc, on assume son destin. Il y a quelque chose de terrible dans ce jansénisme. C'est-à-dire que, enfant, il a été orphelin très tôt, Racine, et ensuite, donc, il a été mis petit, tout petit, chez les jansénistes, qui étaient quand même des gens assez terribles. Et en même temps, il a gardé aussi, à la fin de sa vie, il retourne au jansénisme. C'est-à-dire que le poids de ce qu'on a porté dans la vie, il faut le porter. Donc, la gloire, on la porte aussi, même au prix du plus grand amour qu'on ait.
Ben merci les filles pour votre merveilleuse interprétation merci. Et votre passion pour Racine et vos deux mises en scène de Bérénice. Il y a plein d'autres questions. Est-ce que c'est une tragédie du sacrifice? Est-ce que c'est une analyse du pouvoir extrême, etc., etc. On va s'arrêter là, hélas, et on va se quitter avec Hervé Va Piano.
Y'a pas de courage sans peur, je serre les dents, je serre les dents. Quand c'est le temps qui prend, je fais un piano. Le passé vient frapper comme une gauche, je serre les dents. Le corps qui d'un coup se désaccorde, va piano. Toujours sourire, toujours sourire. Serre les dents, resserre les dents. Toujours sourire, toujours sourire. Va piano, ouais, va piano. Va piano.
C'était Hervé et son titre « Va piano ». Merci à Stéphane Beaujac qui était à la technique ce soir. Merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Antoine Joubert. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Et merci aussi évidemment à Lilian Alaume qui a réalisé cette émission. Et après le prochain journal de la rédaction, vous avez rendez-vous avec Mishka Sayas pour son « Very Good Trip ».